C'est au point que l'on a amené ces malheureux à se soumettre, avec une patience opiniâtre, aux infortunes insupportables qu'ont attirées sur eux ces convulsions et ces bouleversements dans les propriétés. L'esprit de prosélytisme marche toujours à la suite de cet esprit de fanatisme. Aussi ces messieurs ont-ils des sociétés établies pour cabaler et pour correspondre, tant chez eux qu'à l'étranger, en faveur de la propagation de leurs principes. La République de Berne, une des contrées de la terre les plus heureuses, les plus florissantes et les mieux gouvernées, est un des principaux objets à la destruction desquels ils visent. On m'a dit même qu'ils étaient parvenus, jusqu'à un certain point, à y semer des germes de mécontentement. Ils sont fort occupés dans toute l'étendue de l'Allemagne. On n'en est pas à éprouver l'Espagne et l'Italie. L'Angleterre n'est point mise à l'écart dans les plans d'exécution que forment leur charité maligne et corruptrice. Et en Angleterre, ceux qui étendent les bras vers eux, qui du haut de plus d'une chaire recommandent leurs exemples, qui ont pour agréable, dans plus d'une de leurs assemblées périodiques, de correspondre publiquement avec eux, de les applaudir et de les exalter, comme des objets dignes d'imitation. Ceux qui reçoivent d'eux des gages de confraternité et des drapeaux consacrés au milieu de leurs rites et de leurs mystères, qui leur suggèrent des ligues d'une perpétuelle amitié, tous, tant qu'ils sont enfin, ils choisissent pour le moment de faire toutes ces choses, celui même ou le pouvoir qui, d'après notre Constitution, jouit exclusivement de l'exercice du droit fédératif de ce royaume, peut trouver qu'il est expédient de leur déclarer la guerre. L'objet de mes craintes n'est pas la confiscation de la propriété de notre Église, d'après l'exemple de la France, quoique je pense que ce ne fût pas un mal indifférent. Le véritable motif de ma sollicitude, c'est la crainte qu'en Angleterre, on vienne jamais à regarder comme la politique d'un État de trouver des ressources dans des confiscations de quelque espèce que ce soit, ou qu'une classe quelconque de citoyens puisse se croire autorisée à en regarder une autre comme sa proie naturelle. Les nations s'enfoncent tous les jours de plus en plus dans l'océan d'une dette sans bornes. La dette publique, qui, dans l'origine, était une sûreté pour les gouvernements, parce qu'elle intéressait un grand nombre d'individus à la tranquillité de l'État, pourra vraisemblablement, par ses excès, devenir la source de leur ruine. Si les gouvernements pourvoient au paiement de cette dette par de lourdes impositions, ils périssent en devenant odieux au peuple. S'ils ne trouvent aucun moyen d'y pourvoir, ils seront anéantis par les efforts du plus dangereux de tous les partis, je veux dire par un mécontentement général parmi les capitalistes créanciers de l'État, lorsqu'on les injurie au lieu de les rembourser. Les hommes qui composent cette classe commencent par chercher leur sûreté dans la fidélité du gouvernement et en second lieu dans sa puissance. S'ils découvrent que l'ancien gouvernement soit débile, usé, et que tous ses ressorts soient tellement relâchés qu'il n'ait plus la vigueur qui leur est nécessaire, c'est alors qu'ils se livrent à l'espérance d'en créer de nouveaux qui auront une plus grande énergie. Et cette énergie ne dérivera pas d'une acquisition de ressources, mais du mépris de la justice. Les révolutions sont favorables à la confiscation, et il est impossible de prévoir sous quelle dénomination offensive les premières auront lieu. Je suis certain que les principes qui prédominent en France s'étendent à toutes ces personnes, à toutes ces classes de personnes dans tous les pays du monde qui regardent leur indolence paisible comme leur sécurité. Cette sorte d'innocence dans les propriétaires est présentée comme une inutilité, et l'inutilité comme une incapacité à posséder leurs biens. Le désordre est manifeste dans une grande partie de l'Europe. Dans des endroits où il n'existe pas encore, d'un tonnerre éloigné, le bruit s'est fait entendre. Un mouvement confus s'annonce et menace d'un tremblement de terre général le monde politique. Il se forme déjà dans plusieurs contrées des confédérations et des correspondances de la nature la plus extraordinaire. Dans une telle situation de choses, nous devons nous tenir sur nos gardes. Dans tous les changements, s'il faut qu'il y ait des changements, la circonstance qui contribuera le plus à atténuer les maux qui les accompagnent, c'est qu'en les admettant, ils rencontrent sans cesse dans nos esprits la même ténacité pour la justice et la même affection pour les propriétés. Mais on objectera que cette confiscation qui a eu lieu en France ne doit pas alarmer les autres nations. Ce n'est pas, a-t-on déjà dit, par un esprit inconsidéré de rapacité qu'elle a été dictée. C'est par l'effet d'une grande mesure de politique nationale qui a été adopté pour détruire les dangers d'une superstition invétérée et générale. C'est avec la plus grande difficulté que je puis séparer la politique de la justice. La justice est elle-même la grande et permanente politique de la société civile. Et lorsque, dans une circonstance quelconque, on s'en écarte d'une manière trop éclatante, il y a tout lieu de soupçonner que ce n'est nullement par un but politique. Lorsque les hommes sont encouragés, par des lois existantes, à adopter un certain genre de vie, lorsque les lois les y protègent, comme dans une occupation légale, lorsque toutes leurs idées et toutes leurs habitudes sont calquées d'après elles, lorsque d'après les mêmes lois, observer longtemps les règles qu'elles prescrivent est un titre de réputation, tandis que s'en écarter est un objet de déshonneur et même de châtiment, je suis sûr qu'il est injuste, en législation, d'offrir par un acte arbitraire une violence soudaine à leurs esprits et à leurs cœurs, de les dégrader par force de leur état et de leur genre de vie, et de stigmatiser par la honte et par l'infamie ce caractère et ces habitudes qui avaient été jusque-là la mesure de leur bonheur et de leur dignité. Si vous joignez à cela qu'on les expulse de leur demeure et que l'on confisque tous leurs biens, j'avoue que je n'ai pas assez de sagacité pour découvrir comment ce despotisme, qui choisit les affections, les consciences, les préjugés et les propriétés des hommes pour en faire l'objet de son divertissement, peut être distingué de la tyrannie la plus dégoûtante. Si l'injustice de la conduite que l'on tient en France est si facile à apercevoir, la politique qui préside à ces mesures, c'est-à-dire l'avantage public qui en résultera, devrait être au moins aussi évident, et pour le moins d'une aussi grande importance aux yeux d'un homme qui n'est dirigé par aucune passion et qui n'envisage que le bien public dans les projets qu'on lui présente. Une différence immense et frappante se présentera d'elle-même entre le but politique que l'on pouvait avoir lorsque, dans l'origine, on forma de telles institutions et la question de leur anéantissement total après qu'elles ont poussé des racines étendues et profondes, et lorsque, par l'effet d'une longue habitude, des accessoires plus importants qu'elles-mêmes leur sont tellement adaptés et tissus en quelque sorte avec elles que l'on ne peut détruire les unes sans entraîner inévitablement la perte des autres. On pourrait être embarrassé, si le cas était réellement tel qu'il plaît à vos sophistes de le représenter dans le style pitoyable de leurs débats, mais en ceci, comme dans presque toutes les questions d'État, il y a un milieu. Il existe quelque chose entre l'alternative d'une destruction absolue et d'une existence sans réforme. Spartam nactus est, hanc exorna. Vous avez trouvé une cité toute bâtie, embellissez-la. Ceci renferme, à mon avis, un sens bien profond, et ce devrait être toujours une règle présente à l'esprit d'un réformateur bien intentionné. Je ne peux concevoir comment un homme peut parvenir à un degré si élevé de présomption que son pays ne lui semble plus qu'une carte blanche sur laquelle il peut griffonner à plaisir. Un homme qu'une bienveillance toute spéculative inspire vivement peut désirer que la société dans laquelle il est né soit autrement constituée qu'il ne l'a trouvée. Mais un bon patriote et un vrai politique considérera toujours quel est le meilleur parti que l'on peut tirer des matériaux existants dans sa patrie. Penchant à conserver, talent d'améliorer, voilà les deux qualités réunies qui me feraient juger de la bonté d'un homme d'État. Toute autre conduite est vulgaire dans l'invention et périlleuse dans l'exécution. Il y a des instants dans la fortune des États où de certains hommes sont appelés pour opérer, par les efforts de leur grand génie, toutes les améliorations qu'on désire dans ces circonstances, lors même qu'ils semblent réunir à la confiance du prince celle du pays tout entier. Et lorsque l'autorité la moins bornée leur est abandonnée, ils n'ont pas toujours en main les instruments suffisants. Un politique qui veut faire de grandes choses doit s'assurer une puissance. J'entends par là le point d'appui des manœuvres. Et si une fois il la trouve, il ne doit pas être plus embarrassé en politique qu'on ne l'est en mécanique pour en faire usage. On avait, selon moi, dans les institutions monastiques, une forte puissance pour le mécanisme de la bienveillance politique. Vous aviez là des revenus qui avaient une direction publique. Vous aviez des hommes, tous consacrés à des vues publiques, n'agissant que d'après les principes publics et ne connaissant d'autres liens que des liens publics. De ces hommes qui ont renoncé à tout intérêt personnel, et dont l'avarice ne peut être que dans un esprit de communauté. De ces hommes, pour qui la pauvreté personnelle est un honneur, et auquel une obéissance implicite tient lieu de liberté. C'est en vain que l'on cherchera la possibilité de créer de telles choses. Quand il en est besoin, le vent souffle toujours au gré de ses caprices. De telles institutions sont les fruits de l'enthousiasme, et elles sont aussi les instruments de la sagesse. Il n'est pas au pouvoir de la sagesse de créer des matériaux. Ils sont les dons de la nature et du hasard. Mais le mérite de la sagesse est de savoir en faire usage. Dans les corporations, la perpétuité de leur existence et de leur fortune est une chose précieuse entre les mains d'un homme qui a des vues étendues, qui médite des projets que le temps seul peut consommer, et qui, dès qu'ils sont exécutés, n'ont de valeur que par leur durée. Ils ne méritent certainement pas un rang bien élevé, ni même d'être cités au nombre des hommes d'État. Ceux qui, ayant eu à leur disposition absolue la direction de pouvoir de cette nature, si précieux par ses richesses, par sa discipline et par son régime habituel, ainsi que tout cela existait dans le corps que vous avez si témérairement détruit, sont incapables de trouver un moyen de faire tourner toutes ces choses à l'avantage réel et permanent de leur pays. À la vue seule d'un tel moyen, 1000 usages s'offrent d'eux-mêmes à un esprit inventif. Détruire une espèce de pouvoir qui, par sa nature concentrée, procure tant de force à l'esprit humain, c'est agir dans l'ordre moral comme le ferait dans l'ordre physique celui qui voudrait détruire les propriétés actives et apparentes des corps. Ce serait comme les efforts que l'on ferait pour détruire, si toutefois détruire est de notre compétence, la force expansive renfermée dans le nitre, ou le pouvoir de l'eau réduite en vapeur, ou celui de l'électricité, ou celui de l'aimant. Ces énergies ont toujours existé dans la nature, et on les y a toujours discernées. Longtemps on avait cru les unes inutiles, les autres nuisibles, d'autres bonnes seulement pour des jeux d'enfants, jusqu'à ce que par le génie de l'observation, le savoir vint s'unir à la pratique, apprivoisa leur nature sauvage, les soumit à nos besoins, les rendit à la fois les agents les plus puissants et les plus obéissants pour les grandes vues et les vastes desseins des hommes. Trouvâtes-vous que 50 000 personnes, dont vous auriez pu diriger les forces et l'esprit, et qu'un revenu annuel de plusieurs centaines de mille livres, lequel n'était ni oisif ni employé, fût-ce une tâche trop au-dessus de vos talents? Convertir des moines en pensionnaires était-il le seul moyen que vous eussiez d'en tirer parti? La ressource imprudente d'une vente prodigue était-elle aussi le meilleur moyen de rendre tous leurs revenus utiles? Si vous étiez dépourvu à ce point de ressources d'esprit, il n'y a rien que de naturel dans tout ce qui vous est arrivé. Vos politiques n'entendent rien à leur métier, et c'est pourquoi ils vendent leurs outils. Mais, dit-on, ces établissements favorisent la superstition dans son principe même, et ils la nourrissent par une influence ouverte et permanente. Mon intention n'est pas de contester ce point, mais cela n'aurait pas dû vous empêcher de tirer de la superstition même les ressources qui pouvaient en résulter pour l'avantage public. Vous en retirez de beaucoup de dispositions d'esprit et de passions humaines qui, aux yeux de la morale, ne sont guère plus recommandables que la superstition elle-même. Votre devoir était de corriger et de mitiger dans cette passion tout ce qui pouvait y être nuisible, aussi bien que dans toutes les autres. Mais la superstition est-elle le plus grand de tous les vices possibles? Dans ces excès présumables, je la crois un très grand mal. Cependant, la superstition étant dans le ressort de la morale, elle est susceptible de variations dans ses degrés et de modifications dans ses formes. La superstition est la religion des esprits faibles. Et il faut bien souffrir ce mélange inévitable, soit dans les choses peu importantes, soit dans leur enthousiasme, soit autrement. Sans cela, vous priveriez les esprits faibles d'une ressource qui est reconnue nécessaire même pour les esprits les plus forts. La base de toute véritable religion consiste assurément dans l'obéissance à la volonté du souverain de l'univers, dans notre confiance en ses promesses et dans l'imitation de ses perfections. Le reste est notre ouvrage. Il peut préjudicier à cette grande fin, il peut la seconder. Les hommes sages, ceux qui le sont en effet, ne sont pas admirateurs, pas au moins des munérateurs. Ils ne sont pas attachés à ces choses avec passion. Ils ne les détestent pas avec violence. la sagesse n'est pas le censeur le plus sévère de la folie. Il n'y a que les folies rivales qui se déclarent une guerre inexorable et qui fassent un usage cruel des avantages qu'elles remportent dès qu'elles peuvent décider le vulgaire inconsidéré à se ranger de l'un ou de l'autre côté dans leur querelle. La prudence serait neutre, mais si au milieu de tous ces conflits, excités d'un côté par un fol attachement et de l'autre par une antipathie féroce sur des choses qui par leur nature ne sont pas faites pour produire tant de chaleur, un homme prudent était obligé de faire un choix entre les erreurs et les excès de l'enthousiasme qu'il serait forcé de condamner ou de supporter, peut-être croirait-il que l'enthousiasme qui bâtit vaut mieux que celui qui démolit. Peut-être donnerait-il la préférence à celui qui embellit sur celui qui défigure, à celui qui dote sur celui qui pille, à celui qui peut s'égarer dans sa bienfaisance sur celui qui ne respire que l'injustice, à celui qui conduit les hommes à refuser des plaisirs légitimes sur celui qui leur arrache la faible subsistance qui suffit à leur désintéressement. Tel est à peu près, je crois, l'état de la question entre les anciens fondateurs de la superstition monastique et la superstition des prétendus philosophes du jour. Quant à présent, je mets à l'écart les considérations du profit public que l'on suppose devoir résulter de cette vente, quoique je vois très distinctement qu'elle n'est qu'illusoire. Je ne vais considérer cette question que comme un transport de propriété. Voici, sous ce rapport, quelques réflexions. Dans toute société qui prospère, il y a un excédent de production sur la portion nécessaire à l'entretien de celui qui cultive. Cet excédent est le revenu du propriétaire foncier. Il sera dépensé par un homme qui ne travaille pas. Mais cette paresse elle-même est la source du travail. Ce repos est l'aiguillon de l'industrie. Le seul intérêt de l'État, c'est que le produit de la terre retourne à l'industrie qui l'a procuré et que le revenu se partage de manière que la morale ne soit point offensée par les dépenses des propriétaires et que le peuple ne soit pas lésé dans le partage auquel il a droit. Sous tous les points de vue de recettes, de dépenses et d'emploi personnel de revenus, un législateur modéré comparerait avec soin le propriétaire actuel qu'on lui prescrit de renvoyer avec l'étranger qu'on lui propose de mettre à sa place. Avant de s'exposer à tous les dangers qui accompagnent nécessairement toutes les révolutions violentes de propriété occasionnées par des confiscations, on aurait dû se procurer l'assurance positive que les nouveaux acquéreurs des propriétés confisquées seraient beaucoup plus laborieux, plus vertueux, plus sobres, et moins disposé à arracher des mains du laboureur une portion hors de mesure de ses profits, ou à dépenser pour eux-mêmes plus que le juste nécessaire qui convient à chaque individu, ou qu'il serait bien plus à portée de disposer du surplus d'une manière plus égale et plus utile, de façon enfin à répondre en tout, dans leurs dépenses, au vu de la politique, bien mieux que ne le faisaient tous les anciens propriétaires. Et vous nommerez ces propriétaires anciens évêque, chanoine, abbé commendataire ou moine, comme il vous plaira. Les moines sont paresseux, je veux bien l'admettre. Supposez qu'ils n'aient d'autre emploi que de chanter au cœur, ils sont aussi utilement employés que ceux qui jamais ne chantent ni ne parlent, aussi utilement même que ceux qui chantent au théâtre. Ils sont employés tout aussi utilement que s'ils travaillaient, depuis l'aube du jour jusqu'à la nuit, à ces innombrables occupations serviles, dégradante, indécente, indigne de l'homme, et souvent pestilentielle et destructive, existant dans la société auquel tant d'êtres malheureux sont obligés de se vouer. S'il n'était pas généralement dangereux de troubler le cours ordinaire des choses et d'arrêter d'une manière quelconque cette grande roue de circulation dont tous les travaux étrangers de ce peuple malheureux dirigent le mouvement, je me sentirais bien plus porté à arracher tous ces infortunés à leur misérable industrie qu'à troubler avec violence le repos tranquille de la paix monastique. L'humanité, et peut-être la politique, me justifierait plutôt de l'un que de l'autre. C'est un sujet sur lequel j'ai souvent réfléchi, et jamais sans en être vivement ému. Je suis sûr qu'aucune considération ne peut justifier, dans un état bien réglé, de tels commerces et de tels emplois, si ce n'est la nécessité de faire porter le joug du luxe et d'exercer le despotisme de l'imagination par la distribution impérieuse de tout l'excédent des produits de la terre. Mais quant à tous ces moyens de distribution, Il me semble que les dépenses des moines paresseux sont aussi légitimes que les inutiles dépenses de nous autres fainéants laïcs. Lorsqu'il y a égalité dans les avantages entre les possesseurs actuels et les possesseurs projetés, il n'y a pas de motif pour changer. Mais dans le cas actuel, peut-être qu'il n'y a à cet égard aucune incertitude, et que les avantages se trouvent du côté de la possession actuelle. Dans le fait, je ne vois pas comment les dépenses de ceux que vous allez expulser seraient, par leur direction et par leur emploi, de nature à les rendre si odieux, si indignes de les posséder, et moins avantageuses à la chose publique que ne le seront celles des nouvelles personnes favorisées que vous allez introduire dans leur maison. Par quelle raison, vous ou moi, trouverions-nous si intolérable cette dépense d'une grande propriété foncière qui n'est que la dispersion du surplus du produit du sol lorsqu'elle est employée à former de vastes bibliothèques qui sont le dépôt de l'histoire, de la faiblesse et de la force de l'esprit humain, à composer de grandes collections de titres, de médailles et de monnaies qui attestent et qui expliquent les lois et l'usage, à réunir des tableaux et des statues qui, par leur imitation de la nature, semblent étendre les limites de la création, à recueillir les fameux monuments des morts qui prolongent au-delà du tombeau les liens et les égards de la vie, à rapprocher en un seul lieu les échantillons de la nature entière, à en faire une sorte d'assemblée représentative qui, par la réunion des règnes, des classes et des familles, rend la science plus facile et qui, en excitant la curiosité, ouvre de nouvelles routes à la science. Si par ces grands établissements permanents tous les objets de dépense trouvent un abri contre l'inconstance du goût, contre les caprices et les extravagances des particuliers, cela est-il plus fâcheux que si des individus épars se livraient au même goût? La sueur du maçon et du charpentier, qui travaillent pour partager celle du paysan, découle aussi agréablement et aussi salubrement dans la construction et dans la réparation des édifices majestueux consacrés à la religion que dans les magasins somptueux et dans les misérables bouges du vice et de la luxure. Aussi honorablement et aussi utilement à réparer ces ouvrages sacrés, que leur grand âge revêt du lustre des siècles, que dans les asiles momentanés d'une volupté passagère, que dans les salles d'opéra, des mauvais lieux, des maisons de jeu, des clubs et des obélisques au Champ de Mars. Le surplus du produit de l'olive et de la vigne est-il plus mal employé pour la nourriture frugale de ces êtres qui, étant consacrés au service de la divinité, sont élevés par une imagination pieuse à une grande dignité que pour l'entretien dispendieux de cette multitude de valets qui se dégradent en se vouant au service de l'orgueil d'un seul individu? La décoration des temples est-elle une dépense moins digne d'un homme sage que celle que l'on fait pour des rubans, pour des cocardes nationales, pour de petites maisons, pour de petits soupers et pour toutes les sottises et les folies innombrables dans lesquelles l'opulence se plaît à dissiper le fardeau de sa superfluité? Nous tolérons même toutes ces choses. Mais pourquoi? Ce n'est pas que nous les aimions, mais nous craignons pis. C'est par l'effet du respect que nous avons pour les propriétés et pour la liberté que nous les tolérons jusqu'à un certain point. Par quelle raison veut-on proscrire un autre usage des biens, usage qui, assurément, sous tous ses points de vue, est plus louable que le dernier dont j'ai parlé? Par quelle raison violer toute propriété et outrager tout principe de liberté pour arriver du mieux au pire? Ce parallèle entre les nouveaux individus et les anciens corps est fait dans la supposition que ceux-ci ne seraient susceptibles d'aucune réforme. Mais en matière de réforme, j'ai toujours pensé que les corps politiques, soit qu'ils fussent représentés par un seul individu ou par plusieurs, étaient bien plus susceptibles de recevoir, par la puissance de l'État, une direction publique pour l'usage de leurs propriétés et pour le régime habituel et intérieur des individus qui les composent, que des citoyens isolés ne peuvent et ne doivent peut-être jamais l'être. Et ceci me paraît être une considération fort importante pour ceux qui veulent entreprendre des choses qui méritent le nom d'une entreprise publique. Je n'en dirai pas davantage sur les biens des monastères. Quant aux biens possédés par des évêques, par des chanoines et par des abbés commendataires, je ne peux comprendre pour quelles raisons certains bienfonds ne peuvent être possédés à un autre titre qu'à celui d'une hérédité par succession. Quelqu'un des destructeurs philosophiques pourrait-il entreprendre de démontrer le danger positif ou relatif d'avoir une certaine et même une grande portion de propriété foncière arrivant successivement à des personnes dont le titre de possession est, toujours en théorie et souvent dans le fait, un degré éminent de piété, de morale et de savoir, propriété qui, par sa destination, par sa circulation et par l'attrait qu'elle offre au mérite, donne aux familles les plus nobles du relief et du soutien, et aux familles les plus communes de l'élévation et de la dignité, propriété dont on ne jouit qu'à la charge de l'accomplissement de certains devoirs, quelle que soit la valeur qu'il vous plaise d'accorder à ces devoirs, et que le caractère de ceux qu'on en pourvoit, astreint à conserver un extérieur décent et de la gravité dans leur manière, qui les oblige à exercer une hospitalité généreuse mais tempérée, à regarder une partie de leurs revenus comme un dépôt pour la charité, et dans le cas même où, par l'oubli de leur caractère, ceux qui en sont pourvus violeraient le dépôt, et dans le cas où ils dégénéreraient en gentilhommes laïcs, seraient-ils à aucun égard pire que ceux que l'on destine pour successeurs dans leurs possessions confisquées? Vaut-il mieux que ces biens soient possédés par ceux qui n'ont aucun devoir à remplir que par ceux qui en ont? Par ceux dont le caractère et la destination les dirigent à la vertu, que par ceux qui n'ont d'autres règles ni d'autres directions dans la dépense de leurs revenus que leurs désirs et leurs volontés? Ces biens, d'ailleurs, par la manière dont ils sont possédés, n'ont pas absolument dans leur caractère les inconvénients que l'on suppose inhérents aux biens de main morte. Cette sorte de bien est celle qui passe le plus rapidement d'une main dans une autre. Aucun excès n'est jamais bon. C'est pourquoi il me semble qu'une trop grande proportion de propriété foncière ne peut être tenue à vie officiellement. Mais je ne vois pas quel tort essentiel il peut résulter pour la chose publique qu'il y ait une autre manière d'acquérir des propriétés foncières que par un déboursé préalable d'argent.